Dès mardi, découvrez L'Appel des Abysses, troisième podcast natif de fiction de France Culture.
La tempête a fait des ravages sur le territoire.
L'océan a recouvert les continents, l'air est devenu irrespirable. L'élite financière s'est réfugiée dans une cité immergée. À la surface, les plus pauvres étouffent dans un immense bidonville flottant où gronde la révolte.
Nous vivons tous accrochés les uns aux autres comme des naufragés à leur radeau.
Élevé à l'air libre, Marin découvre qu'il aurait dû grandir dans les profondeurs.
Il a été adopté.
L'Appel des Abysses, fiction en 10 épisodes, en son immersif, sur franceculture.fr et les plateformes dédiées.
Pendant 3 ans, une fois par mois, je me suis levée au milieu de la nuit, traversant Quito dans les brumes, pour prendre le premier bus qui descendait vers les forêts d'Amazonie équatorienne. À l'époque, j'ignorais que j'avais rendez-vous avec un peuple nomade. Des chasseurs-cueilleurs évoluant entre 2 fleuves et refusant tout contact avec notre civilisation. Parfois, le voyage en sait plus que nous, qui nous pousse, nous exhorte, et l'on comprend après. Éteignant la lumière et refermant doucement la porte, je vivais chaque départ comme un rituel, aussi sacré que ces jeux d'enfants où l'on se jette sans trop savoir, le cœur battant.
Anne Cibran, Le Cercle Sauvage. Voyage en Amazonie équatorienne. 2e épisode. Le puma qui jouait du violon.
Passant d'un bus à l'autre, je m'éloigne de Quito, dévalant les montagnes, filant vers la forêt. Partout ces lacets, ces gouffres, cette pente vertigineuse comme si, où que l'on aille, tout conduisait irrésistiblement vers la jungle. Perché sur le marchepied, un jeune acrobate crie les destinations et ramasse en route les mains tendues, les nourrissons et les ballots. On croirait que ce n'est pas nous qui partons, mais la ville qui vient nous chercher, avec à chaque arrêt ses avant-goûts, messagers de l'Amazonie. Ballots de feuilles, cajots de fruits, la buée d'une cascade ricochant au carreau, cette touffeur parfumée qui fait ouvrir les vitres, puis le soudain déluge qui les fait refermer.
Mon nom est Mario.
My name is Mario.
Mon voisin de siège m'a demandé tout à l'heure de l'aider à être 3 hommes.
Je suis né avec le Quichua. C'est le premier homme. Un enfant pauvre dans une famille nombreuse. 2e homme, je le suis devenu quand j'ai appris l'espagnol à l'école. Ça m'a permis, d'aller en ville, de travailler. Mais je suis resté pauvre. Je veux devenir un 3e homme en apprenant l'anglais. Celui-là sera riche, portera un costume et voyagera partout. Tu peux m'aider ?
Il recueille mes mots avec ferveur, comme si chacun lui délivrait un fragment du royaume où il rêve d'entrer un jour prochain. Quand je lui dis que je vais à Arauno, ses yeux s'arrondissent.
La Casa del Suizo.
Comme beaucoup, il connaît ce grand hôtel des rives du Rio Napo, un endroit où vont les étrangers, les riches de Quito. À la façon dont il sourit, je devine qu'il se voit déjà devant les buffets de nourriture, les fontaines de jus de fruits, les chambres avec ventilateur. Mais quand je lui explique que je ne vais pas à l'hôtel proprement dit, mais que j'ai rendez-vous avec un runa comme lui, qui m'a invité pour quelques jours dans sa maison de la forêt, son visage se contracte légèrement.
Mais là-bas, tu n'auras pas de douche ni de lumière, et pas des toilettes non plus. Tu vas tomber malade.
Qu'une femme blanche aille volontairement habiter dans l'univers auquel il tente d'échapper depuis toujours le consterne. Ce matin, il mesure à quel point le riche possède toutes les vies possibles, y compris celle du pauvre, qu'il peut s'amuser à enfiler pour quelques jours, comme un habit. Il y avait donc des maisons et une route derrière ce grand hôtel. Il y a un mois, quand j'y étais arrivée par le fleuve, j'avais l'impression de débarquer en pleine forêt primaire. Aujourd'hui, je découvre l'autre côté du décor. La Casa del Suizo est adossée à Arauno, un village de tôles et de parpaings. Tout le monde ici sait que l'hôtel existe, ne rêvant que de franchir le double sas pour approcher d'un peu plus près la vie du troisième homme. Depuis le village, on ne voit de l'hôtel qu'un mur infranchissable au crépi crasseux, surmonté de barbelés et de caméras. Je dois retrouver Rodolfo à la sortie du personnel, une porte blindée actionnée derrière une vitre sans teint. Il m'a dit terminer son travail à 17h. Je l'attends 1h30, saluant les femmes et les hommes qui repartent chez eux avec l'uniforme et dont beaucoup me questionnent, étonnés de me trouver là.
Bonjour Anita. Désolé pour ce retard. Ici, tu sais, on finit seulement la journée quand le chef veut bien nous laisser partir.
Ce n'est pas grave, Rodolfo. Le temps ne m'a pas semblé long.
Merci. Allons-y. Tenez.
Je propose d'acheter du riz et un peu de nourriture pour la famille à l'épicerie San Rita, une baraque peinte en bleu clair où les paquets de pâtes trônent parmi les cahiers d'école. Odeur de ragoût. Du manioc trempe dans une bassine. Près de la machine à coudre, j'exhume les boîtes de conserve d'un tas de linge à repriser. Une pile de paquets de lessive improvise un guéridon à côté d'un canapé où, entre les ours en peluche et les poupées encore sous leur plastique, une poule s'est mise à couver.
Anita, la nuit tombe. Il nous faut encore traverser les fleuves.
D'accord, on y va.
Nous repartons. Déjà derrière nous, les lampadaires s'allument, à l'eau orangée brassée par les moustiques et les gros papillons. Des avenues aux pavés inégaux débouchent sur des impasses où des maisons désertes repartent à la forêt, le toit percé de branches, sous des coulées de mousse où chantent les crapauds. Au crépuscule, le fleuve respire plus fort. Vaseuse et entêtante, son haleine est partout. Nous avons passé le quartier des bars et des discothèques et longeons un mur carrelé de faïence à demi décollé. Ici, le neuf est si provisoire que j'ignore s'il s'agit d'une maison que l'on tarde à construire ou du dernier vestige d'un lieu abandonné. Depuis la maison épicerie de Doña San Rita, ma gorge s'est resserrée. Il y a des moments dans le voyage où l'âme remonte respirer sous la peau comme un petit poisson. Je sens l'émotion des passages, le frémissement des premières fois. De l'autre côté, on ne distingue pas la rive, noyée dans l'obscurité.
L'électricité ne passe pas le fleuve. Mais la lune est grosse. Ce soir, on n'aura pas besoin de torches.
Derrière nous, les bruits s'éteignent. J'ai l'impression d'avoir laissé sur la rive quelque chose que je ne retrouverai jamais. Comme une mue que le fleuve lentement détache avec ses longs doigts tièdes. Une fois débarqué sur l'autre rive, Rodolfo me précède, la machette à la main, attentif au serpent. Chaque maison apparaît comme une grotte creusée dans les feuillages. On la devine à l'aboi du chien, au rire des enfants. La maison de Rodolfo est déserte. Ils sont encore à la rivière, les femmes à la lessive et les enfants au bain. Comme j'approche de la rive, les petits m'éclaboussent puis disparaissent sous l'eau en couinant. Le temps de dénouer mes chaussures, je les rejoins tout habillés. L'eau est tiède. Glissant sur les pierres, on nage sous l'eau opaque pour se surprendre, s'agripper un instant puis se perdre.
Hola. Hola, je m'appelle Anita. Anita Soutini. Fanny.
Viens, viens, Anita. Moi, je suis Geoffrey.
C'est comme ça que les présentations se feront ce soir-là, à se pincer dans l'eau boueuse et à glousser. Ainsi, je rencontre Fanny, Geoffrey, Ronnie, Cynthia, Yvette et la grand-mère Sacha, ce qui veut dire la jungle.
Lluvia de verano.
Lluvia de verano.
Lluvia de verano. El cielo está jugando. A pompa.
La forêt est devenue liquide. Je l'entends qui coule doucement sous le plancher de la maison. Ici, pas de cloison sous le toit rond couvert de palmes, à part une petite pièce close où la famille se serre la nuit pour se protéger du puma. Un bébé qui n'a pas encore de nom serre dans son poing une mèche de sa grand-mère Sacha. Entre les petits doigts, les cheveux gris s'agitent comme les plumes d'un oiseau.
L'enfant a son nom à partir de l'âge de 2 ans. Sûr que l'âme veut bien rester.
Au moindre prétexte, l'enfant palpe Sacha, la renifle. Elle semble pour lui un jardin, enclos de gestes prévenants, qui s'ouvre parfois sur le reste du monde.
Alors, comme on a le temps d'y penser, on donnera à l'enfant un nom qui raconte ce qu'on a remarqué chez lui. Ma mère, qui adorait le miel, s'est appelée Miski. Plus tard, elle est devenue celle qui savait repérer l'emplacement des nids d'abeilles.
Accroupie dans un coin, un cahier sur les genoux, j'essaie de prendre quelques notes, ouvrir un chemin de traces qui me permettra de mettre des mots ensuite, quand je serai rentrée. J'ai perdu toute notion du temps. Au lieu des heures qui s'écoulent, je n'ai qu'une succession d'images, petites scènes, intrigantes par la force de leur justesse, leur indéniable beauté. Sacha jette un nid de termites dans le feu pour chasser les moustiques. Une fumée aromatique envahit la maison. Enveloppé de feuilles, le poisson cuit dans la cendre. Un petit garçon s'est endormi par terre, saisi dans la posture où la fatigue l'a cueilli. Grimpé dans l'arbre à coton, les poules ressemblent à de grosses fleurs qui s'entr'ouvrent parfois. Soudain, la nuit clignote. Un vol de lucioles traverse la maison. L'enfant, qui n'a pas encore de nom, se dresse, nu et potelé, pour essayer, titubant, d'attraper ces lampires qui révèlent un coin de palme, une jarre, la corde d'un hamac, avant de s'évanouir sous les arbres. Dressé sur la pointe des orteils, l'enfant parvient à saisir une luciole, je ne sais trop comment. Son poing s'éclaire d'un vert luisant. Ébloui, il se laisse retomber sur ses petites fesses tendres en écartant les doigts. La lueur s'envole, cogne son front et disparaît. Après que le sol a été balayé, une couverture jetée sur les planches, nous nous sommes allongés dans la petite pièce close. Je suis couchée contre la cloison, bordée d'enfants.
Grand-mère, tu n'as pas entendu crier le puma ?
Elle dit ça tous les soirs pour que grand-mère nous raconte l'histoire des mondes puma.
Au premier temps, les animaux étaient si sauvages que les hommes devaient vivre cachés. Le grand puma rouge qu'on appelait mondo puma était de loin le plus féroce. Les hommes le redoutaient tellement que certains avaient bâti leur maison en haut des arbres, comme font les oiseaux. Mais Mundo Puma parvint à grimper jusqu'à eux et les dévora tous. D'autres construisirent leur maison sur une île au milieu du fleuve. Là encore, le fauve sut les trouver. Aïe, mes enfants, il n'y avait aucun refuge pour les hommes tant que courait Mundo Puma. Craignant que les hommes ne disparaissent de la forêt, les jumeaux, Lucero et Cuyur, décidèrent de tendre un piège aux fauves aux géants. Grimpant sur le mont Galleras, ils creusèrent une grotte qu'ils arrangèrent comme une maison, disposant toutes sortes d'instruments de musique. Car on sait que les fauves aiment chanter, et Mundo Puma plus encore que les autres. Puis, ils allaient retrouver le puma rouge pour l'inviter. D'abord, la bête refusa. Elle se méfiait. Mais quand elle entendit les jumeaux jouer toutes ces musiques, elle ne put résister. Mundo Puma grimpa jusqu'à l'intérieur de la grotte, puis il s'assit, prit un violon et commença à chanter. La chaise où se tenait le fauve était couverte de la glu blanche et épaisse de l'arbre du caoutchouc. Quand les jumeaux coururent fermer l'entrée de la grotte, Mundo Puma ne put se lever.
Piquitza ! Piquitza !
Crièrent les jumeaux. C'était une parole magique. La roche devint si dure que Mundo Puma ne pouvait plus s'échapper.
Il est encore dans la montagne, le puma rouge ?
Oui, il y est toujours. On dit qu'il est devenu si grand que ses rugissements réveillent les volcans endormis. La nuit, par un trou dans la falaise, on voit parfois ses yeux briller.
Mais comment il fait pour manger ?
À chaque nouvelle lune, les animaux de la forêt grimpent jusqu'au mont Gayeras afin de nourrir Mundo Puma par un trou creusé dans la roche. D'abord viennent les petits fauves. Puis c'est le tour des biches, des sangliers, des écureuils et des oiseaux. Il n'est pas un animal de la forêt qui n'apporte à Mundo Puma quelque chose à manger.
Tout le monde s'est endormi. Je n'ai pas sommeil. Chaque instant écoulé vibre encore en moi comme un vin capiteux. Je songe à cette famille qui m'a laissé une place au plus près. Je mesure le privilège de partager leur souffle, les entendre rêver. Je revois la petite fille qui cherchait ma main tout à l'heure pour y blottir la sienne. Ce regard échangé, nez contre nez, avant que Rodolfo ne souffle la bougie. Les premières fois, je ne tiens pas longtemps dans la jungle. 2 semaines et il me faut repartir, épuisé par les nuits sans sommeil, le corps mordu par les insectes, le ventre malade des eaux du fleuve. Le plus difficile est cette constante promiscuité. Dans une famille Runa, rares sont les moments de solitude. Je suis surtout avec les enfants, leurs compagnes de jeu, leur oreiller, leur perchoir ou leur banc. Puis très vite, après quelques jours à Quito, revient l'envie de jungle. Je me réveille avec des nostalgies d'instants, tel ce moment avant l'aube, quand j'entre dans le fleuve tiède, bordé d'une brume d'arbres, épaisse comme un lait. Et me voilà à boucler mon sac pour y retourner encore.
Allons pêcher, Anita. Car hier soir, je fais un bon rêve. Je dois aller chercher les poissons que le rêve a gardés pour moi.
Rodolfo a surgi à l'heure de la sieste, un peu ivre, parlant fort. Et nous avons compris tout de suite que quelque chose était arrivé. Quand sa femme lui demande pourquoi il revient de l'hôtel au milieu de la journée, il s'éloigne en haussant les épaules.
Tu repars quand à Quito, Anita? Peut-être que j'aimerais bien vivre là-bas.
Et ta femme? Tes enfants?
Tranquillamente, ils me rejoindraient. Plus tard, quand j'aurai de l'argent. Mais je pense que je vais plutôt me décider pour les cabanes.
Les cabanes?
Je vais faire construire un village de cabanes. Ici, tu vois? Autour de la maison. D'abord, on va mettre de l'eau chaude, parce que j'ai remarqué que les étrangers sont frileux. Puis, on aura les restaurants, tranquillamente, et ensuite la piscine. Remarque, Anita, la piscine, ce n'est pas le plus important, parce qu'il y a les fleurs, et qu'on peut aussi aménager une plage avec des plongeoires. Mais chez nous, ce sera quand même plus simple que la casa del suizo.
Tandis qu'il parle, la pirogue file, si fluide que j'ai l'impression de voler, sur une eau lisse comme un miroir où lucioles et étoiles se confondent. Le rêve rechigne à donner à Rodolfo les poissons qu'il lui avait promis. Parfois, quand le désarroi est trop profond, reste le refuge du château en Espagne. Revanche prise sur le sort, le temps d'un songe, éclairé par les feux de l'alcool. Tout à l'heure, après 4 ans de travail, Rodolfo a été renvoyé de l'hôtel, sans la moindre explication. On lui a laissé les bottes de caoutchouc, un t-shirt imprimé Casa del Suizo. Il a dû laisser les jumelles, le sac à dos, les lunettes de soleil. En même temps qu'il sort de l'eau un filet vide, Rodolfo énumère ses objets qu'il a dû rendre et dont il m'assure ne plus pouvoir se passer. Soudain, j'ai l'impression de voir l'hôtel briller au fond du fleuve, ses maisons dorées à leur fin, avec cette fascination diabolique qui fait que celui qui y a touché une fois oublie tout le reste et ne songe qu'à y retourner, fût-ce par les tourbillons de l'eau, en y laissant le souffle.
Aquí nosotros, ya sabes, sí. La vida de siempre, preparando la comidita, ocupándome de...
Un mois plus tard, quand j'arrive à Araono avec des sacs de riz et des médicaments, j'apprends que Rodolfo est parti. Quelqu'un m'accompagne jusque chez lui. Les femmes m'accueillent chaleureusement. Elles m'assoient aussitôt pour me porter la bière. Mais une tristesse humecte leur moindre geste. J'apprends que Rodolfo est allé à la frontière péruvienne travailler pour une compagnie pétrolière. Depuis 3 semaines, sa femme n'a pas de nouvelles. Elle redoute qu'il n'en trouve une autre là-bas et qu'il ne revienne pas. Un peu plus tard dans la nuit, nous sommes blottis dans la petite pièce sans fenêtre, quand la terre se met à trembler.
Apa mama, apa mama, tu crois que c'est mon Nupuma qui a faim? Et s'il arrive à sortir, le puma rouge, s'il vient jusqu'à notre maison, papa, il n'est plus là.
Cynthia, manamancha de cuchu, il ne va pas sortir, mon puma, parce que les animaux vont lui porter à manger.
Et si les animaux oublient?
Écoute, Ochoihuahua. Écoute comme la forêt est redevenue tranquille. Il ne grogne plus, le puma. Rendors-toi, Ochoihuahua. Tu peux me croire? Depuis le temps que je respire sous ce ciel, j'ai l'habitude. Mon puma, il a maintenant le ventre plein.
Tu es sûre?
Les petits fauves d'abord. Ferme les yeux, Ochoihuahua. Est-ce que tu les vois? Ferme les yeux, Ochoihuahua. Ferme bien les yeux pour regarder passer les biches, les sangliers, les perroquets, les colibris. Est-ce que maintenant tu les vois? Toutes ces bêtes et même les lézards, les papillons et les fourmis, escaladant la montagne, l'une derrière l'autre, sur ce mont Gallera, ce qu'on aperçoit entre les brumes. Tout couille, tout couille. Il se penche sur le trou pour jeter les viandes aux grands fauves, des fruits, des graines et même des vers de palme. Écoute, comme la forêt est devenue tranquille. Le ventre du puma est rond comme la colline. Il n'a plus envie de grogner. Rendors-toi, Ochoihuahua. Tout va bien.
Le cercle sauvage de Anne Cibran. Deuxième épisode. avec
Chloé Rijon,
Emiliano Suárez,
Marcela Obregón,
Noelia Mora,
Elie Verde,
Sacha Verde,
Luna Cortés,
Marisol Gomez,
Edouard Wolf.
Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Nicolas Depagraf. Assistant à la réalisation, Julie Briand, Vivien Demeyer. Réalisation, Laure Egoroff.